L'émission avec d'interview, création sonore, face pub,
etc.
Radio, une fois par mois,
l'émission.
Bonjour à tous et à toutes, on espère que malgré cette situation, ça peut aller pour vous tous, avec la présence de Philippe, un adhérent qui participe sur un module sonore dans cette émission, ainsi que la présence pour ce sommaire d'une service civique. Voilà, donc je vais laisser commencer l'énumération de ce qu'il y aura.
Merci Vincent. En premier lieu, vous allez pouvoir écouter
un sujet sur l'amour. Alors, qui est vaste, qui peut faire débat, et c'était la dernière séance de radiophonique d'Oriane, dans le cadre de son stage, qu'elle aura fait à Micro-Sillon, nous aurons traité sur ce sujet donc de l'amour, auquel on aura débattu avec Olivier et une de nos services civiques.
Et maintenant, Philippe va nous présenter l'autre module.
Un morceau d'Olivier Serra, Malgré tout, et la Polaire.
Le quatrième module.
Histoire d'une vie de l'individuel au collectif, épisode 4, le climatologue amateur, chronique de Philippe Charc.
Et une interview qui aurait été courte, faite d'une personne accueillie en situation de handicap, que j'aurais vue sur une édition du Festival Diamant Saint-Muré, là où j'aurais également re-expo de photos réalisées par moi-même au reportage 31 Vincent Delzem.
Le nouvel épisode de Gentil et le bébé singe, il s'agit de l'épisode 17 raconté par Rodolphe. Et pour finir, Mixdown version 4, un morceau de Nicolas Baudon, au texte précis, au rythme scandé et aux accords lancinants.
Avant de vous souhaiter bonne écoute et à la prochaine et bonne continuation, je vais vous annoncer, malgré une mauvaise nouvelle de la crise sanitaire qui perdure encore, nous avons quand même deux bonnes nouvelles avec des radios supplémentaires qui nous puissent. En commençant par Radio Rage sur Nîmes, onde 102.5, diffusant un chez nous comme l'autre. Radio Saint-Afrique dans l'Aveyron et également sur Mio, les ondes c'est 96.7 et 100.6, puis Radio Brume à Lyon, ils devraient nous diffuser normalement d'ici peu ou déjà, à se confirmer prochainement.
Merci pour ces annonces et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, voilà le nouvel an tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, si ces mots-là vous viennent du cœur, ils porteront bonheur, c'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour.
Donc bonjour pour cet atelier, le dernier peut-être de Oriane, ou alors je sais pas, de radio.
L'avant-dernier.
L'avant-dernier, voilà, je souhaitais traiter de l'amour. Voilà, donc les relations difficiles, les conflits, que ce soit en couple, marié ou pas forcément. Alors j'en viens aux questions. Comment ça se fait que cela soit compliqué, les relations d'après vous? Vaste sujet.
Vaste sujet. Elle est compliquée quand même cette question. Et parce qu'en même temps, on est tous compliqués. Comme on disait avant l'émission.
Oui, chacun a ses particularités et c'est pas... Le fait de s'aimer, ça règle pas tous les problèmes, ça règle pas les problèmes personnels et on peut pas tout pour l'autre, alors que parfois on voudrait. Nécessairement, ça crée des conflits.
D'après ma femme, c'est à cause du fait que je ne prenne pas les médicaments pour aller mieux, que ça va pas bien entre nous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que ça peut être dû aussi à autre chose? Parce que pour ma part, je ne trouve pas que c'est dû forcément à la prise des médicaments.
Et après, comme disait Isella, il y a la partie, il y a le soi individuel et qui rentre dans le couple, quoi. Et c'est comment on se voit soi, comment l'autre nous voit. Et c'est ce qui rend aussi la chose compliquée. Et peut-être qu'il faut aussi savoir à des moments faire un travail sur soi, faire des compromis. Je crois que c'est aussi ça, le couple, faire des compromis.
Ouais, puis c'est assez compliqué de parler pour toi. Dans le sens où la question de la prise des médicaments, c'est un choix qui t'est propre et sur lequel on n'a pas quelque chose à dire parce que ça ne nous regarde pas, parce que c'est pas notre vie et que ça fait partie des choix et il y a des choix qui sont à respecter. Je suis assez d'accord avec Oriane aussi sur la question des compromis, de savoir qu'est-ce qu'on fait pour l'autre, jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux à la fois dans le couple mais à la fois chacun pour soi aussi, parce que si chacun n'y met pas du sien, à un moment donné, nécessairement, ça bloque quelque part.
Bon, je passe à la suivante. Pour votre part, quels sont les problèmes et solutions qui peuvent arranger nos relations d'amour, je veux dire, entre couples?
La communication, nécessairement. Parler. Ne pas rester dans son coin avec ses angoisses, avec ses problèmes, en ruminant des choses, en se disant que l'autre va comprendre ou l'autre va savoir parce que l'autre n'est pas dans notre tête. Et que si on dit rien, si on laisse les choses se faire comme ça, ça va jamais amener rien de bon parce que l'autre est jamais dans sa tête à soi et qu'il n'y a qu'en communiquant, qu'en parlant, qu'en discutant que les choses peuvent avancer et qu'on peut arriver à comprendre l'autre dans le sens venir en empathie avec lui et mieux s'aimer.
Et je rebondis par rapport à ça, comment faire quand on est avec une personne qui est réservée, plutôt timide, qui est à l'inverse de sa personnalité, moi je suis plutôt extraverti, elle est plutôt introvertie. S'il y a une autre solution que le fait de pouvoir facilement parler.
Je pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Clairement, je pense pas qu'il y ait d'autres solutions que le fait de parler et que c'est pas nécessairement une question d'être introverti, extraverti, timide ou pas timide. À un moment donné, quand il y a un couple, quand il y a deux personnes ensemble, même si elles ont des personnalités radicalement différentes, il y a quelque chose qui match, il y a quelque chose qui fait qu'on s'aime à un moment donné et que ça, c'est le point de départ pour pouvoir discuter. Et que ça veut pas dire se confier sur tout le temps, mais c'est accepter de prendre des moments, pourquoi pas se les planifier ou les faire autour d'une soirée, d'un repas, de quelque chose, où il y a un cadre, où le cadre est posé de ben, je respecte ta parole, tu respectes la mienne, et on essaye d'aborder un sujet, puis un autre, et puis c'est au fur et à mesure, quand on fait l'effort de parler une fois, qu'on arrive à parler après petit à petit, plus naturellement.
Pour tout simplifier, je pense qu'il y a, une vidéo, ça s'appelle c'est une vidéo faite par un docteur, ça s'appelle Les femmes viennent de
Mars et les hommes de Vénus, c'est un livre aussi.
C'est l'inverse.
Et ça, il explique très bien la relation du couple. Et moi, je l'ai vu une fois avec ma femme. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés. Parce qu'à un moment, quand on regarde la vidéo, on se retrouve, quoi. Il y a au moins quelque chose qui fait qu'on se sent pareil, quoi.
Mais toi, je te vois pas dans ta vie de couple en dehors de Micro-Sillon. Mais j'ai l'impression, juste en te voyant à Micro-Sillon avec elle, que vous avez rarement de conflits, que vous êtes en osmose souvent ou tout le temps.
Oui, en fait, on laisse chacun sa liberté et comment dire, on fait les choses ensemble et à la fois chacun de notre côté. Il y a un respect mutuel et ça, je respecte ce que. Voilà, et on se fait confiance. L'important, c'est de se faire confiance, je pense, et faire des concessions aussi chacun de notre côté.
Pour finir, donc, est-ce que. Voilà, pourquoi les choses sont si compliquées dans nos vies alors qu'elles pourraient être plus simples. Tu disais hors interview tout à l'heure, Olivier, que c'était parce que l'être humain est complexe, mais mis à part ça.
En même temps, on se ferait chier si c'était hyper simple. Genre si tout était simple, si, du coup, il se passerait rien. Parce que c'est quand même...
Il faut une part d'obscurité pour avoir du bonheur. Et je pense que tout bonheur mérite... Enfin, tout bonheur vient de la galère, quoi. Enfin, il faut galérer pour être... Enfin, ça y est, j'ai pu y arriver, quoi. Et c'est l'extase, après, c'est, voilà, c'est deux fois mieux, quoi, parce qu'on a réussi à gravir des escaliers. C'est le cadeau de la vie, quoi. Mm. La vie ne s'est pas fait...
Oui, parce que quand tu regardes, genre, tous les bouquins sur le bonheur ou des trucs comme ça, en fait, ils parlent pas du bonheur proprement parlé, mais plus de comment y accéder, parce que... Mais, en fait, ils parlent du malheur et comment de s'en sortir, parce que c'est ça, le bonheur. Mais voilà, c'est que c'est un équilibre.
Ouais, et que le bonheur, c'est pas une absence de malheur non plus, dans le sens où, pour venir sur la question du couple et du pourquoi c'est compliqué, etc., mais comme on a déjà dit, on est tous compliqués, on a tous notre bordel, tous nos marasmes, notre petit chaos intérieur, notre vide, et faire déjà ça avec soi-même, gérer ça, gérer ses emmerdes, ses angoisses, tous ces trucs, c'est pas simple. Alors, rajouter là-dessus quelqu'un qui a la même chose, a ses propres emmerdes, ses propres difficultés, forcément, ça crée des conflits, ça crée des endroits de tension, mais en même temps, c'est de ces endroits de tension qu'on arrive à tisser quelque chose, à créer quelque chose d'un peu plus beau et qu'on arrive à s'en sortir un peu mieux. Et c'est ce que disait Olivier, ce truc de bah, tu galères, tout le monde galère, et puis peut-être que tu peux y arriver seul, mais y arriver à deux, c'est vachement chouette aussi, quoi. Ça permet d'accéder à quelque chose auquel tu peux pas accéder seul. Mais en même temps, je crois que ça veut pas dire que tout doit être être plat, tout doit être parfait, sans aucune goutte d'eau qui fait déborder les vases, parce que ça, c'est pas la vie. La vie, c'est toujours des hauts, des bas, des explosions, des petits machins, des tout calmes, et que c'est ces petits trucs-là qui font le bonheur. Et qu'il y a des trucs où on a l'impression sur le moment que c'est le malheur, et que c'est le conflit, et que c'est terrible, et qu'on va jamais s'en sortir, et finalement, quelques temps après, on se dit, mais en fait, c'était une broutille, ou même on en a un bon souvenir.
Mais sur ce, merci de votre participation à ce débat où il y aura eu des bas et des hauts. Voilà, et je voulais rajouter, mais si vous avez quelque chose à dire de plus, et sinon, j'aurais une dernière question. Quel souhait pour cette nouvelle année vous aimeriez par rapport à l'amour ou même sur un autre aspect, mais qu'est-ce que la nouvelle résolution ou les nouvelles résolutions, si vous pouvez nous en citer chacun une au moins.
Faire preuve de plus de tempérance pour ma part. Je sais que j'ai tendance à très vite m'emporter, très vite passer dans les tours et parler un peu plus fort et m'énerver pour rien, sans que ça soit réellement visé sur l'autre, mais c'est juste ma façon de faire sortir le trop d'émotions, le trop de sentiments, et je sais que ça fait mal à l'autre. Et j'aimerais savoir un peu plus me gérer par rapport à ça pour que ça touche moins l'autre. Donc ouais, mon vœu, ça serait apprendre un peu plus la tempérance.
Olivier, une volonté, quelque chose que t'aimerais qui se passe dans cette nouvelle année que t'as pas eu ou que t'aimerais faire perdurer?
Je sais pas trop.
C'est pas trop. Bon, t'as pas des choses qui t'ont que t'as pas réussi à avoir que t'aimerais avoir ou arranger des situations.
Quelque chose, j'ai l'impression, et moins on la trouve, quoi. Enfin, plus tu t'accroches à tes rêves, et plus tes rêves, ils partent, quoi. Enfin, et dans la situation où on est en ce moment, je pense qu'il faut continuer, malgré ça, à croire en ses rêves, même à vivre le jour le jour. Chaque jour est un grand bonheur. Pas attendre le lendemain pour réaliser des choses, les réaliser dès maintenant. Enfin, ne pas attendre, ne pas reporter les choses au lendemain.
Faire les choses au temps présent, c'est ça
oui,
que tu veux dire.
Ouais. Oui, surtout en ce moment, j'ai l'impression que...
Vivre au jour le jour.
Vivre au jour le jour, ouais. Comme si c'était le dernier. Ben, je dis pas ça.
Et pour Oriane, donc, t'as une idée ou... Parce que sinon, on allait te souhaiter... Mais vas-y, d'abord.
Ok. je dirais de se faire plus confiance, de faire plus confiance aux autres, de s'entraider. Enfin, voilà, plein de belles choses et de belles valeurs. Son micro-sillon.
D'accord. Et par rapport à toi, personnellement, en dehors de micro-sillon, ou même en lien avec micro-sillon, mais un souhait, quelque chose que t'aimerais qu'il se réalise?
Moi, concrètement, là, pour 2021, j'aimerais avoir mon diplôme, voilà, très concrètement, et vivre à la campagne, voilà, j'en demande pas plus.
D'accord, mais donc, voilà, on en vient à terminer et à te dire, parce que peut-être qu'on le fera pas à la prochaine émission, à la dernière, donc une bonne réussite, en espérant que tu puisses vivre à la campagne ou à la ville, si tu as envie de changer. Et que tu arrives à trouver un poste dans le domaine, je suppose, éducatif, vu que c'est tes études. Mmh. Voilà.
Ben merci.
De rien. Ben à la prochaine. Bonne continuation.
Merci.
Ciao.
Ciao.
Bonne année, bonne santé. Tout neuf, solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver.
Bonne année.
Bonne année, bonne santé, monsieur dame. Et souhaitons que dans 100 ans, on puisse comme à présent se redire de tout cœur tous nos meilleurs vœux de bonheur.
Débat, atelier.
C'est micro-sillon.
L'intérêt supérieur de la patrie combat.
Micro-sillon.
Ouvrez vos circuits vers le cinquième et plus loin, après que viendrait l'heure de Néophilomoé. Épisode Zomobu, les circuits d'après. À l'épisode précédent, on a parlé des 5 premiers circuits neuro, et que parfois, s'éveiller sans drogue est presque aussi risqué que prendre de drogue pour le faire. Heureusement, pas autant. Le sixième circuit est le circuit neuroélectrique, ou le centre des vraies émotions. La capacité naturelle de précognition psychique de l'humain peut permettre de s'éveiller à une conscience plus grande, un entre guillemets cercle conscient de l'humanité, devenant chaman. Le peyote et la psilocybine excitent ce circuit, le précédent est parfois le suivant. C'est de là que viennent les expériences décrites dans de nombreux livres comme ceux de Kenneth Meadow, Carlos Castaneda et beaucoup d'autres. A noter, ces expériences ne sont qu'à tenter que si on a le cœur bien accroché, si on n'a pas encore éveillé son cinquième circuit. Il y a déjà eu des dizaines de décès à cause de l'utilisation d'ayahuasca, une autre pharmacopée utilisée dans cette même fin. Le septième circuit est le circuit neurogénétique, ou centre du vrai intellect. À partir des expériences conceptuelles et de l'adhérence au soi-disant entre guillemets cercle conscient de l'humanité, même s'il faut avouer que je ne sais pas de quoi Robert Anton Wilson parle en disant ça, il semblerait que l'homme puisse, avec beaucoup d'aide de la part d'une adorable Lucie dans le ciel avec des diamants, lire son propre code génétique, et donc apprendre à le réécrire pour muter dans le sens de l'immortalité, muter perpétuellement comme un vrai mutatis mutandis le ferait. Cette mutation perpétuelle serait une symbiose avec Gaïa et l'écologie en règle générale. On peut également noter que plus l'état souhaité est lointain de notre conscience entre guillemets actuelle, plus la drogue est forte et donc dangereuse pour notre pauvre cerveau, qui n'y est pas adapté. Sauter des étapes entre les circuits est donc vivement déconseillé. Le huitième circuit est le circuit métaphysique, ou centre de l'essence. La fusion avec Gaïa, notre planète, éveillerait en nous une vision, une conscience cosmique des choses. A partir de cela, nous pourrions interagir avec elle pour nous rapprocher du concept de l'univers qui est Akari Akasa. C'est la fusion cosmique, ou, limitée dans le temps, le don rarissime du Satori. Il paraît que la kétamine, un somnifère pour cheval, excite ce cerveau, probablement en endormant tous les autres. Mais franchement, vous aurez largement le temps après la découverte du 7ème circuit pour trouver des composés plus adaptés et moins dangereux pour l'organisme humain. Enfin, pour l'organisme autrefois humain et désormais cosmique que vous seriez alors. Un truc qui m'a espanté dans Cosmic Trigger est le fait que Robert n'est ni un génie, ni Jésus, comme 99% des gens diraient l'un ou l'autre. Je suis juste jaloux de lui. J'ai déjà appris tout ce qui était écrit dans ce livre, ou presque, lors des aventures de ma vie, mais Robert est passé par un tout autre chemin que moi. Alors que j'ai accédé à une bonne partie de mon illumination en échafaudant des théories sur des philosophies, des chansons et des dessins animés parlant de jeunes collégiennes, ce mec a croqué du peyote, visité un chaman, côtoyé Aleister Crowley et participé à plusieurs messes noires. Il a fait des exercices sexuels tantriques avec sa femme, rencontré par hasard un soufi déguisé en clown qui lui a fait retrouver ses amis qu'il avait égarés grâce à la télépathie, et il a élevé entre autres une fille qui a 13 ans à la dépasser en termes d'illumination et à l'éviter avant d'être battue à mort et devenir le premier cerveau cryogénisé au monde. En bref, ce mec a eu accès à la pratique avec toutes les bonnes et mauvaises expériences, et après une vie de doute, paranoïa et conspiration et espoir, en a tiré les mêmes conclusions que moi, un autiste inactif, apathique et otaku. Comme quoi, ce livre de philosophie Moé est un testament à la réalité que les voies qui mènent à Dieu sont très variées et nombreuses. Quand on vous dit « trouver votre illumination », on ne rigole pas. On continuera à vous parler de ces circuits le mois prochain.
Micro-sillon. nous avons de preuves formelles.
De l'individuel au collectif, par Philippe Shark.
Bonjour monsieur et madame, bonjour les auditeurs, voici l'épisode numéro 4 de l'individuel au collectif. Un épisode enregistré pendant la période de confinement. Celui qui préférerait vivre à Montréal qu'à Paris. En hiver, il aime trop le grand froid. En France, la froidure le prend cruellement. Je me souviens que l'hiver 1962-63 a été particulièrement rigoureux sur la France. Puis, en 1966, une nouvelle vague de froid s'est manifestée en janvier. De ce fait, j'ai pris goût aux hivers très rigoureux et dès l'année de mes 18 ans, en 1970, j'ai pris la décision de faire ma vie au Canada. Mon père me parlait de la grande vague de froid sur la France en février 1956. Je ne pouvais plus m'y souvenir. Dès 1971, je voulais m'installer au Canada, mais vu la situation dans laquelle je me suis trouvé, il n'en était pas question. J'y passais des vacances, vu que la province du Québec soit le pays de l'hospitalité, c'est possible. En février 1974, je me suis rendu dans mon pays de prédilection pour une première fois au cœur de l'hiver. Cela m'a fait plaisir. La température de l'atmosphère est descendue à moins 32 à Alma-Lac-Saint-Jean et j'ai eu un large sourire. Le fond de l'air est sec, c'est très supportable. J'ai été hébergé chez un couple d'amis québécois et j'ai pris goût aux conditions climatiques du pays. Le fait de trop aimer le grand froid et qu'il n'y avait plus d'hiver très rigoureux en France, je suis retourné dans mon pays de prédilection en janvier 1977 et que je suis allé à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Le thermomètre est descendu à moins 44 degrés Celsius et cela a été la température la plus basse que j'ai vécue. Engourdi par le froid, mais mentalement, je me suis senti mieux qu'à Paris au cœur de l'été pourri. Un jour de juillet 1980, au milieu du mois le plus chaud tenant compte des normales saisonnières, la température n'a pas excédé 15 degrés à l'heure de la plus chaude de la journée, et vu l'humidité et le fait que le climat soit océanique, j'ai eu l'impression d'avoir plus froid à Paris en été qu'à Yellowknife au cœur de l'hiver, en raison de l'amplitude annuelle est trop faible, pratiquement la même température en juillet qu'en janvier. Et cela a régénéré des allergies aux conditions climatiques. La raison que je préférais vivre à Montréal qu'à Paris. Comment peut-on aimer le très grand froid en France? Mon père m'a beaucoup parlé des hivers rigoureux de 1929, 1940, 1942, 1954, 1956 et 1963. C'est une question de vent et d'origine de master, à l'époque de l'année la plus froide tenant compte des normales saisonnières.
Et merci beaucoup Philippe pour ce témoignage à propos du grand froid, un propos qui nous donnerait presque froid là avec ces moins 44 degrés dont vous nous avez parlé. Voilà, donc là on est effectivement, comme vous le disiez en début de l'épisode, confiné, mais grâce à vous Philippe, eh bien il faut le dire, on voyage avec vous hein, dans cette aventure québécoise. Alors moi Philippe, j'avais une première question par rapport à votre amour du grand froid, c'est de savoir si finalement, deux questions peut-être en même temps, savoir si vous n'aviez pas peur d'être dans ce grand froid. Parce que moi, personnellement, quand j'étais au Québec, bah, il faut le dire, j'avais peur de ce grand froid. Hein. J'avais peur, moi, quand j'y étais l'année dernière. Et du coup, ma question, c'était ça. C'était, est-ce que vous n'aviez pas peur? Parce que vous parliez, j'étais un peu engourdi, mais c'était quand même agréable. Et savoir, bah, finalement, comment vous étiez habillé, quoi. Parce que vu votre amour du grand froid, j'imagine que vous avez passé du temps dehors. Et voilà, c'est ça mes deux questions. Est-ce que vous aviez peur? Et comment vous étiez habillé?
Et savoir à quelle époque de l'année tu étais au Canada? Quel mois?
Ah, l'intervieweur se fait interviewer par l'interviewé. moi, j'y étais de août à avril. De août à avril 2018-2019. Et vous, du coup, Philippe, vous y étiez quand au Québec?
C'était au mois de janvier de l'année 2018, la dernière fois que j'ai mis les pieds. Parce qu'en tout, je suis allé 6 fois au cœur de l'hiver. Ah, c'était plusieurs mois. Le maximum, c'était un mois.
Et ça vous fait pas peur alors d'y être pendant l'hiver comme ça?
Non, ça m'a pas fait peur, parce que j'étais attiré par les conditions climatiques du pays.
Alors, et alors vous vous habillez bien, j'imagine que vous avez un matériel fait pour ce grand froid, quoi.
Oui, la première fois j'avais une dodo, les fois suivantes une combinaison parce que j'ai fait un motoneige, le scooter des neiges, on appelle ça. Skido, c'est la marque, et j'ai appris que c'était à Saint-Michel-des-Saints. Il y avait le fabricant, le commerçant de ces engins de sport mécanique. Et oui, ça s'est fait que j'étais carnaval de Québec et plus fête de la neige à Montréal.
D'accord.
Dernièrement, j'étais à Ottawa, j'ai patiné de la longue patinoire, le canal. Et puis j'ai visité le Parlement fédéral du Canada. J'ai vu entre autres la Cour suprême du pays et la Grande Bibliothèque. Et j'ai vu aussi le tribunal de grande instance d'Ottawa et de la municipalité.
D'accord, merci pour ce voyage à distance.
J'ai vu des beaux-arts d'Ottawa et aussi j'ai vu qu'il y a le centre, je veux dire, le siège social pluraliste.
Mmh.
C'est un organisme toute discrimination.
Et alors moi, il y a une question qui me taraude un petit peu, c'est de savoir, parce que vous parliez du coup que c'est du fait que votre père, il vous avait parlé des grands froids qu'il y a eu, donc on peut se dire qu'il y a quelque chose peut-être d'affectif dans le rapport à ce grand froid. Et est-ce que vous diriez que du coup, qu'est-ce qui fait que vous aimez ce grand froid? Est-ce que c'est le plaisir, du coup, peut-être affectif, mental, que ça vous procure, de vous rappeler ses souvenirs peut-être? Ou alors une question physique? Où ça fait des grands effets physiques, hein, le grand froid. Donc ouais. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes attiré par ce grand froid. Est-ce que vous pourrez décrire ça? Parce que c'est intéressant, c'est assez original.
Parce que mon père était en France à l'époque de la grande vague de froid de 1940 et de 1942. Il s'en est souvenu par cœur. Il a beaucoup parlé surtout de février 1956 parce que ça a été le plus fort au de l'intensité. C'est un hiver très rigoureux. Ça a été la plus grande vague de froid sur la France depuis le début des années 1900 en matière de climatologie. Mais ça n'a pas été la plus longue. La plus longue, c'était surtout l'hiver 1962-63.
En plus de ce que vous a dit votre père, maintenant, quand vous êtes dans le froid, vous vous sentez bien finalement.
Oui.
Ça vous fait une sensation physique d'agréabilité, quoi.
Oui.
C'est très original.
Aborder la question. J'aime le temps, le froid que ça. Et j'ai appris que le froid, ça peut faire beaucoup de victimes dans des pays où on n'est pas équipé pour affronter les températures semblables.
Et oui, c'est pour ça que je posais la question de votre équipement, parce que à aimer tant le froid, c'est vrai que ça peut être dangereux, il faut être bien équipé, quoi.
Oui.
Et alors après, justement, une autre question. Donc, vous nous avez parlé dans vos épisodes précédents de votre vie parisienne. Vous êtes parisien. Voilà, vous avez habité pendant très longtemps à Paris. Et puis maintenant, vous êtes toulousain. Vous habitez à Toulouse. Et alors, moi, ma question, c'était quel climat vous préférez entre Paris et Toulouse? Parce que j'imagine que vous y connaissez dans les différences climatiques plus finement que les personnes en général. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous préférez du climat entre votre ancienne habitation parisienne et votre nouvelle habitation toulousaine?
Dans l'ensemble, je préfère le climat de Toulouse, mais cette année, c'était une exception parce qu'il y a eu des températures au cœur de l'hiver. Ça ne m'a pas beaucoup plu parce que c'était des températures plus estivales qu'hivernales. Le 24 décembre, la veille de Noël, et puis le 2 et 3 février dernier.
Ouais, sacrée précision, ouais. Dans ce que vous vous rappelez. Et alors pourquoi, du coup, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, Philippe, il aime énormément l'hiver, mais il préfère le climat toulousain. Est-ce que vous pouvez expliquer?
Je trouvais qu'il y a eu des températures beaucoup plus basses à Toulouse qu'à Paris certaines années. Il y a des hivers très rigoureux. Des hivers comme 1963-66, et puis des hivers comme 1985 et 2012.
Alors peut-être que c'est dû à la proximité avec les Pyrénées de la ville de Toulouse. Alors moi, ça me fait poser la question, vous qui aimez tant la neige, est-ce que des fois vous allez pour retrouver ce grand froid québécois dans les Pyrénées?
Oui, c'est très hasardeux aussi, tant que la tour qui puisse faire. Parce qu'il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. C'est principalement question de vent et d'origine de master.
Ouais, c'est pas forcément la proximité avec les Pyrénées, d'accord. Et mais vous, en tout cas, est-ce que vous y allez aux Pyrénées de temps en temps?
J'y suis déjà allé, mais pas très souvent.
D'accord.
Je suis allé une fois à la principauté d'Andorre, c'était en 2013, avec un ami qui habite Sarcelles, dans le nord de Paris. Et par la suite, je suis allé avec une amie qui habite le département de l'Ariège, la commune de Carlavelle, et pas très loin de Montpellier-Cage, département de la Haute-Garonne. On a fait une randonnée par là-bas en 2011. C'est surtout dans les Alpes qu'on gagne le plus. Principalement Val Thoiry, la station la plus élevée en altitude, la plus froide dans l'univers. La plus basse que j'ai connue en France, c'était côté de Tigre-Val-Claret, et en haut des pistes. Dans la station, c'était de moins 14, dans le haut des pistes, ça devrait être de moins 26.
D'accord. Ah, ça n'égale pas le climat québécois quand même, hein? Et alors, justement, est-ce que vous avez envie de retourner au Québec?
Pour l'instant, c'est pas prévu. Vous avez montré que deux projets de braquage, mais ça serait des destinations beaucoup plus lointaines. D'abord, mettre les pieds sur le cinquième continent, l'Océanie. Il y aura les villes de Sydney, Melbourne et Brisbane. Éventuellement, Canberra. Voir ce que c'est le nom de Canberra.
Et ouais.
La langue officielle, c'est l'anglais.
Et une autre destination, en plus de l'Océanie?
Ça aurait été la péninsule Antarctique.
Ah, forcément, forcément. Pour le froid encore.
Oui.
Ouais. Ok, super. Bon, bah ça nous donne vraiment envie de voyager. Bah moi, je vous remercie, Philippe, pour ce partage d'amour du grand froid. Moi, je trouve ça très original, parce que d'habitude, les personnes préfèrent le chaud, mais là, c'est... amoureux du froid, et puis on voit à la fin de cet épisode que vous avez, que vous poursuivez des rêves de voyage, de grands voyages, c'est super chouette.
Je vous remercie à vous tous d'avoir suivi ce dialogue.
Vu qu'on a des nouveaux adhérents à Microsillon, on va devoir faire la course aux minutes.
Sion.
Sion. Arrêtez donc la compétition.
Sion.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31.
Vincent,
Donc bonjour, me voici à nouveau au Festival Andiamos avec une personne qui vient participer à cette 9e édition.
Oui, je m'appelle Cédric et c'est très bien le
festival
Andiamos. Oui, oui, le Diamant, c'était bien. Au revoir.
Ah, ben, c'est tout? Tu veux pas rajouter quelque chose?
Non, ça va.
C'est très court, mais bon. Qu'est-ce qui te plaît au Festival Andiamos?
Très bien.
Mais c'est quoi qui t'intéresse?
Ce qui m'intéresse?
Oui.
C'est de faire la fête.
Ah, de faire la fête.
Oui.
Bon. Eh bien, c'est bien.
Au revoir.
Au revoir.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent,
chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute, si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants? Aujourd'hui, épisode numéro 17, où est Babillas? Résumé de l'épisode numéro 16, Babillas est de retour au bercail, chez Jean-Pi. Mais la chasse aux démons se poursuit. Il faut cacher Babillas!
Dix minutes plus tard, on sonne à la porte.
Jean-Pi
va ouvrir.
C'est monsieur le maire. Derrière lui, il y a les deux motards, suivis d'une quinzaine de curieux. Le maire tient un papier qu'il déroule sous le nez de Jean. Ordre de perquisition, dit-il d'une voix grave. Qu'est-ce que cela veut dire ? Demande Jean-Pi. Nous allons fouiller ta maison. Nous pensons que tu as facilité la fuite du monstre qui terrorise pour la fleur et que tu le caches chez toi. Mais il n'y a pas de monstre ici, proteste Jean-Pi. Les motards qui étaient sur le toit l'ont vu entrer dans le magasin de Zélia, reprend le maire. Votre biquet l'a vu, lui aussi. Or, vous étiez devant la porte, toi et Minouche. On a fouillé toute la maison. Il n'y était pas. Alors, nous nous sommes souvenus de cet étrange chat. Du doigt, il désigne le cheval de bois toujours au milieu de la pièce. Étrange chat, répète Jean-Pi. Oui, Zélia nous a dit qu'il y avait une petite trappe dans l'arrière-train. Le démon a pu se réfugier dedans. Viens regarder, réplique Jean-Pi en haussant les épaules. L'un des motards s'approche. Il tire le petit bâton. Tous les insistants font... Il plonge la main à l'intérieur. Fouille. Jean-Pi paraît encore plus surpris que les autres. Il s'avance et regarde à l'intérieur du chemin. Mais c'est vide, annonce-t-il. Le motard lui montre l'égratignure que porte le dos de sa main.
Et ça, qu'est-ce que c'est ?
Un clou ! Répond Jean-Pi en riant. L'autre motard se précipite. Il tire sa torche électrique et la braque à l'intérieur du cheval. Oui, oui, c'est bien un clou qui a éraflé la main de son collègue. Cherchons ailleurs, commande le maire. Jean-Pi et Minouche les regardent faire.
Bientôt, la salle à manger est sans dessus-dessous.
Y'a rien ici, y'a rien.
Et il n'y a pas beaucoup de cachettes dans la pièce. Le maire décide alors de monter au premier étage. Il s'arme d'un balai et passe le premier. Il tient à donner l'exemple de la bravoure. Jean-Pi paraît un peu moins rassuré et échange un regard rapide avec Minouche. Puis tous deux suivent le maire et les deux motards. En haut, on ne trouve rien non plus. Le maire commence à s'énerver. Il tape du pied. Fais attention, Jean-Pi, lui dit-il. Tu es entré à Bourg-la-Fleur de façon irrégulière. Si tu caches le démon, c'est la prison. Et ça ? Demande un motard en montrant du doigt la trappe du plafond. Qu'y a-t-il là-haut ?
Le grenier ?
Répond Jean-Pi d'une voix étranglée. Le motard attire une chaise. Grimpe dessus et soulève la trappe. Soudain, il manque de tomber car un aboiement rageur l'a accueilli. C'est Capucine qui a été toute surprise de voir surgir cette tête au ras du plancher. Jean-Pi se rapproche de Minouche.
Tout est perdu, lui murmure-t-il à l'oreille. Le motard soulève de nouveau la trappe, se lisse à demi dans le grenier, les aboiements cessent. Mais l'on entend des pas, puis le bruit du couvercle de la balle qu'on ouvre et referme. Quelques instants, Jean-Pi s'attend à ce que le motard crie. Les jambes apparaissent dans la trappe et le motard se laisse glisser sur la chaise. Rien qu'un chien, dit-il d'un air grognon. Que fait-il là-haut ? Demande le maire. Jean-Pi est complètement éberlué. Comment se fait-il que le motard n'ait pas aperçu Babylas ?
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. A bientôt!
Quelle horreur! Le corps du cadavre a été strié!
Wilson, on a affaire au tueur au micro-sillon!
Celui qui utilise la création sonore comme arme? Oh.
D'être ce que je suis. T'as écouté à quel prix? Écoute ce que je te dis. Il faut tirer le choix. T'es un peu dégueulasse, tu vois.
Ce que je te dis. Il faut tirer le choix. T'es un peu dégueulasse, non? Tu vois.
D'être ce que je suis. T'as écouté à quel prix? Écoute ce que je te dis. Il faut tirer le choix. T'es un peu dégueulasse, hein, tu vois. T'as écouté à quel prix? Écoute ce que je te dis. Il faut tirer le choix. T'es un peu dégueulasse, tu vois, n'est-ce pas? Ça m'a coûté d'être ce que je suis. T'as écouté à quel prix? Écoute ce que je te dis. Il faut tirer le choix. T'es un peu dégueulasse, hein, tu vois.
une micro-alternative possible.
Micro-sion.
Mais qu'est-ce que c'est que la politique?
C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est que la politique?
Politesque. Épisode Zobu, le célibat involontaire.
Et ainsi on rentre chez nous, mais Émile a fait un bout de chemin avec moi.
C'est bien, au moins, je suis pas seul une fois.
Toi aussi tu es seul?
Que veux-tu? J'essaie du charme. Prends-toi de temps en temps, tu vois. Mais il n'y a pas moyen de se taper la bavette ensemble. À part au bas, je babasse pas un mot, tu vois.
Même chose, j'aime les filles, mais c'est rare que l'on ait des discussions si longues qu'aujourd'hui, même si j'ai pas eu trop le temps de draquer, à part avec Sayori et Yuri. Mais elle, elle compte pas. Je sens mon cœur que devenir comme de pierre. Je sais plus quand je tombe amoureux. Je comprends de mieux en mieux l'expression de célibataire involontaire.
Oh oui, j'aimerais vraiment avoir une petite âme. C'est sans espoir, toi.
Mais je déteste les incels et...
Et qu'est-ce que j'entends? Tu parles de ces détestables incels?
On en est loin, mais...
Je veux pas en être un. Ils détestent les femmes alors que je les aime à la folie.
Ah.
Mais je comprends leur désarroi, car je le vis en ce moment même. Notre société désintégrée ne laisse plus d'endroits où se rencontrer et encore moins parler ensemble, même si je suis autiste et donc j'ai encore davantage de problèmes pour, entre guillemets, taper la causette.
D'accord.
Je me suis rendu compte d'un truc. Les deux sexes sont brassés pendant des années d'études et puis ensuite par certains loisirs. Mais ceux qui n'y font pas partie sont comme des exclus.
Oh oui, d'un côté, celles qui ont évité les pièges.
Rituel de dépossession du corps de la jeune fille par défloration.
Et de l'autre, qui y aurait-il, sinon les hommes seuls.
Attends, t'as une étrange idée. Incel et féministe seraient donc voués à être ensemble. Mais comment les réconcilier? Autant que je fasse des pots, toi, des féministes.
Hé hey.
Je suis ouvert à l'idée de te rendre heureuse.
Et tu crois que je suis heureuse?
Ben non, pas tellement. Je me demande qu'est-ce qui te ferait plaisir.
D'abord, tu arrêtes de sympathiser avec ces incels.
Ben non, ce sont aussi des victimes d'une certaine forme d'exclusion. Ils font des choses horribles et pensent des choses horribles. Mais ces choses horribles ne sont qu'une conséquence de choses qui les dépassent. Ils n'ont pas de chance pour draguer. Mais qu'est-ce que draguer déjà? Et pourquoi draguer?
Eh bien, moi qui drague beaucoup, je comprends pas ta question, tu vois.
Draguer est l'acte d'essayer de séduire une femme. Mais pourquoi séduire? Ce serait baser notre amour sur une moitié de mensonge ou avec l'intention de manipuler sa partenaire. N'y a-t-il pas assez de manipulation dans notre société? Je préfère aimer et poutouter les femmes comme elles sont.
Poutouter. Une sorte de manière passive d'aimer?
Oh oui, j'ai juste besoin de passer du temps ensemble comme on vient de faire là.
T'accompagner, agréable, tu vois.
L'émission est terminé. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.